La dérobade sur les chemins de Compostelle. Oui, le confinement aura au moins servi à cela. Revenir à des choses plus essentielles, retrouver les clés de son propre fonctionnement. Ou prendre aussi du recul avec ce monde qui, lui, en revanche, avance inexorablement vers sa perte. Bref, le pèlerinage de Compostelle jusqu'au tombeau supposé de l'apôtre Saint-Jacques ressemble désormais avant tout à une quête de soi, plus à une quête de soi, on va dire, qu'à une reconquête de foi. D'ailleurs, André Dubernay lui-même, ancien président, mais toujours membre actif de la Société landaise des Amis de Saint-Jacques et d'études compostellanes, ne semble pas revêtir le profil du plus bigot des pèlerins. Non, sa dévotion est plus dans la recherche sur l'historique des chemins menant à Compostelle et dans l'accueil des voyageurs à Mont-de-Marsan, ville-étape.
L'association gère actuellement 6 refuges sur le département, sur 3 voies sur 4. La voie du Puy-en-Velay, qui est la plus courte ici, elle se passe à Aire et à Miramont-Saint-Sac, où on a un refuge. Ensuite, la voie de Vézelay, où on a un refuge à Vialotte, un refuge à Roquefort et ensuite un refuge à Mont-de-Marsan. Après la voie de Tours, on a un refuge à Saint-Paul-et-Dax et à Sort-de-l'Abbaye. Et sur la voie littorale, on n'a pas de refuge pour l'instant. Donc je crois qu'on doit être le département où il y a le plus de kilométrage de chemin de Saint-Jacques. Plus de 400 km.
Et plus de 450, hein, même selon les derniers référencements, la Société landaise des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle, créée voilà 30 ans à Mont-de-Marsan, pour préparer au mieux votre voyage vers la Galice, et dont le siège montois est situé rue Lesbazeille, dans un bâtiment dont le nom va parler au vieux montois. Compostelle donc, chemin de croix et sac à dos, c'est le grand format dans la dérobade avec André Dubernay.
Ce sont les anciennes mains douches, il y a un refuge de 14 places qui accueille en année normale entre 600 et 700 pèlerins, dont plus de la moitié maintenant qui sont des étrangers. Hollandais, Allemands, Belges, on a des Lituaniens, on a des Autrichiens, des Italiens, maintenant, et même des Espagnols qui viennent marcher en France.
Vous parlez toutes les langues, quasiment, ou c'est le langage universel?
Non, c'est l'anglais, souvent, et aussi un mélange de français, d'anglais, d'espagnol. Les gens qui sont sur le chemin, au bout d'un certain temps, ils comprennent toutes les langues.
Ouais. Sur quoi vous échangez avec eux? Quelles aides vous
leur apportez? Alors, nous, on leur apporte l'aide, c'est l'accueil, ils peuvent dormir dans certains refuges, ils peuvent même manger. Ensuite, on leur donne des conseils sur la suite de leur parcours. Pour certains, on leur donne des soins, c'est-à-dire on les accueille le temps qu'ils se réparent les pieds, tout ça. Il y a, parce qu'il y a, quelques-uns qui ont...
Quelques ampoules, oui.
Quelques ampoules, en particulier ceux qui démarrent un peu trop fort.
Ouais.
C'est un sac qui fait entre 6 et 10 kilos à porter. Donc celui qui démarre sans s'entraîner, généralement, dans la première semaine, il a des problèmes, et dans certains cas, il est obligé d'arrêter.
Parce qu'on peut partir d'où, concrètement, pour la route de Compostelle? Pour la définir, parce qu'il y a plusieurs axes.
Alors, historiquement, on partait de chez soi et on passait où on pouvait, parce qu'il y avait des routes, parce qu'il y avait des ponts, parce qu'il y avait des hôpitaux. À l'époque, un hôpital, c'était un endroit où on accueillait les gens qui marchaient. Mais il y a beaucoup de marcheurs, la marche sportive, beaucoup de touristes, c'est-à-dire ils marchent une semaine et puis l'année d'après, ils refont une semaine. Mmh. On fait le chemin comme on veut.
Ouais. Voilà. Parce que le Lituanien, par exemple, il est parti d'où?
Il y en a certains qui partent de Lituanie, les Hollandais, souvent, ils partent des Pays-Bas.
Ouais.
Alors il y a des tronçons où c'est un peu délicat pour l'hébergement, parce qu'il y a des voies dites historiques. Bon, historiques, on peut discuter, mais c'est les voies traditionnelles, c'est celle qui part du Puy-en-Velay, de Vézelay, de Tours, de Arles, et puis la voie littorale qui partirait du Mont-Saint-Michel. Voilà.
Vous croisez des Landais qui viennent ou qui s'arrêtent, ou qui vous appellent?
Voilà,
on a des
Landais qui viennent déjà pour l'association.
Ouais.
Qui viennent pour essayer d'avoir le fameux passeport du pèlerin, qui s'appelle la crédentiale.
C'est quoi ça?
C'est un carnet dans lequel on tamponne toutes les étapes.
D'accord.
Et quand on arrive à Santiago, on a droit à un diplôme écrit en latin, signé de l'évêque, qui s'appelle la Compostellane.
Le diplôme.
La démarche, maintenant, il y a tout. C'est sportif. Religieux, il y en a de moins en moins, parce que Saint-Jacques, déjà, il y a 99 chances sur 100 qu'il n'a jamais mis les pieds en Espagne.
Ouais.
Bon, il y a des gens qui vont pour des problèmes personnels, parce qu'ils ont eu un incident dans la vie, et pour se changer les idées, pour remercier l'être supérieur ou Dieu sait qui, qui marche.
Ouais.
Et
plus dans la quête personnelle, se retrouver avec soi.
Voilà, se retrouver avec soi, rompre un peu avec le milieu matérialiste, encore que maintenant, avec le téléphone et Internet, les gens ne sont pas coupés du monde, alors qu'avant... Quand on partait son sac à dos, il n'y avait plus de radio, il n'y avait plus de journaux.
Il y en a la plupart quand même, ils gardent de la connexion.
Surtout les jeunes.
Ouais.
En plus,
ça veut dire qu'il y a des jeunes donc.
Ah oui, ils commencent de plus en plus à avoir de jeunes, de tous les pays d'ailleurs.
C'est un trek pour eux finalement.
Oui, voilà, un trek, un moment partagé avec les copains.
Ouais.
Il y a un peu moins d'un mois, on avait une équipe, il y avait un Russe, un Biélorusse et deux Ukrainiens.
Oula, Compostelle réunit finalement.
Ils s'entendaient, ils consommaient beaucoup de bière, mais ça s'est bien passé.
Ouais, ils ne regardaient pas du côté de Moscou ou de Kiev.
Je pense qu'ils étaient coupés des nouvelles aussi. Donc chacun le fait comme il veut. Alors, pour ceux qui le font de manière traditionnelle avec les refuges, on peut dire qu'en gros, ça coûte un peu plus d'un euro du kilomètre. L'hébergement, parce que souvent c'est donativo où il faut payer un accueil, alors c'est pour dormir, pour manger. Bon. En gros, on dépasse 30 euros par jour. Quoi.
Ouais.
Et le kilométrage, il y a des gens qui font 50 km, il y en a d'autres qui en font que 15.
C'est ce que j'allais vous demander, voilà. Quand on part, quel que soit le coin des Landes, avant d'arriver à Compostelle, la moyenne, si on peut en faire une.
D'ici,
demain, je pars de Mont-de-Marsan à Compostelle. Je viens vous voir. Je vous dis, André, qu'est-ce que.
C'est entre 30 et 35 jours. Et en plus, si on va à Compostelle, il faut aller à Fistera. C'est trois étapes de plus.
D'accord.
85 km pour aller voir la fin de la Terre.
Donc il faut poser le mois et demi quand même, entre le faire à distance et se refaire voilà. Les pieds.
Puis il y en a qui font du tourisme. Il y en a, ils s'arrêtent trois jours à Léon, trois jours à Virgos. Il y a des villes splendides à voir.
Ouais. Alors du coup, vous, André, charité, si j'ose dire, bien ordonnée, commence par soi-même. Vous l'avez fait, vous ?
Cinq fois.
Une fois
en vélo, avec les voisins
du
quartier de Val-d'Argas. Bon, mais en vélo, on va trop vite. C'était des vélos de course, en plus, et on nous portait les bagages. Donc on l'a fait en 7 jours, et après je l'ai refait à pied. Je me suis dit, c'est pas possible, je suis jamais passé par là. Parce qu'à pied, on a le temps de regarder.
Ouais.
Et puis en plus, il y a les rencontres.
Ouais.
Parce que quand on est en groupe comme ça, en vélo, qu'on va vite, on voit pas les mêmes personnes. Alors que sur le chemin, on rencontre des étrangers, des Français, et puis on discute. Et puis,
c'est une fois quand même. Ouais.
Mais pas le même. Hein.
Ouais.
Je suis parti de Mont-de-Marsan, je suis parti de Séville, je suis parti de Porto, je suis parti du Puy-en-Velay, je suis parti de Vézelay. Voilà.
Et alors pourquoi vous l'avez fait ? Parce que j'ai cru comprendre que c'était pas a priori pour un élan mystique.
Mais c'est à la fois culturel, on s'intéresse au pays, à la fois apprendre des langues. J'ai appris plus de langues d'anglais et d'espagnol sur le chemin qu'en 6 ans de lycée. Faut pas le répéter aux enseignants.
Ah ben le voyage forme la jeunesse et les langues.
Voilà. Et puis on rencontre des gens de tous les niveaux parce que les refuges, tout le monde est sur le même pied d'égalité.
Ouais.
Sac à dos, chaussures de marche.
Okay.
Et on voit des gens. Moi j'ai rencontré un amiral de la marine allemande qui en plus il est peintre à Cabreton. Il est installé marine française et il habite à Cabreton. J'ai rencontré un plongeur de la Comex. Avec qui j'ai gardé des relations d'ailleurs, qui m'a fait visiter la Comex à Marseille. Et puis on voit des trucs originaux, il y a des farfelus, j'ai trouvé un pèlerin qui était à contresens. Je lui ai dit, mais toi, tu vas à Saint-Jacques ? Il dit, non, j'en reviens. Alors je lui ai dit, quoi, t'en reviens ? Tu vas jusqu'où ? Il me dit, à Marseille. Je lui ai dit, mais t'as fait Marseille, Santiago, et Santiago-Marseille ? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, là, tu dois avoir mon patron pour partir comme ça, 3 ou 4 mois.
Ouais.
Il me dit, le patron, c'est moi, ma boîte est en faillite, je réfléchis.
Ou je fuis, on ne sait pas.
Voilà, on voit plein de trucs. Il y en a qui trouvent leurs épouses. Ils font
une rencontre,
ils se marient. C'est à Navarinx, il y avait un curé, super, qui accueillait les pèlerins. Et il y a des Américains, avec des Allemands ou des Hollandais, qui se sont rencontrés sur le chemin, qui sont revenus se marier à Navarinx.
Ah, de belles histoires, oui.
Ouais.
Alors, et la première arrivée, je ne sais pas si ça le fait à chaque fois, mais la première arrivée à Compostelle, même si.
C'est émouvant, ouais. On voit beaucoup de gens qui pleurent.
Ouais.
Pour deux raisons. La première, c'est que beaucoup de gens ne se croient pas capables de le faire.
Ouais.
Puis quand on arrive, on se dit, je l'ai fait.
Ouais. Qui n'étaient peut-être pas sportifs ou des grands marcheurs qui se sont surpassés.
Voilà, donc ils sont contents. Quand on y va 5 fois... Santiago, c'est une ville intéressante, parce que d'abord, c'est une ville galicienne, donc ça ressemble un peu à la Bretagne.
Ouais.
Ils jouent de la cornemuse, ils appellent ça le Gaïta. Et il y a beaucoup d'étudiants. Donc l'animation, le soir en ville, c'est original. Quoi.
Et alors avec la société, justement, vous accueillez donc les pèlerins. Mais
on a des adhérents, on a 200 adhérents à peu près sur le département, même hors département.
Vous filez aussi les infos, comment bien se préparer ?
Des infos, il y a un journal qui paraît 2 ou 3 fois par an. Il y a aussi des journées de marche, on va découvrir le département. Par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, on les amène voir la Bastiale de Saint-Sauvé.
Ouais.
On les fait marcher un peu.
Donc ça crapahute un peu.
On sort de l'abbaye, pareil. On fait des journées marche, on pique-nique ensemble, tout, c'est sympa.
Si jamais il y a des personnes qui nous écoutent, que ça effleure, qu'ils mettent l'idée de côté.
Faut pas trop réfléchir. Faut décider, je pars. On demande conseil à des gens qui l'ont fait.
Ouais.
L'association,
on vient nous voir,
on leur donne les conseils, on leur donne la crédentiale. On leur explique les difficultés, les risques, les précautions à prendre, ce qu'il faut amener dans le sac. Et puis on leur dit, et surtout, écoutez votre corps. Quoi. Si vous avez mal, vous arrêtez un peu, vous faites des étapes plus courtes. Si vous sentez en forme, vous rallongez, il faut s'adapter. Quoi.
Mais il ne faut pas réfléchir à se dire...
Si on calcule trop, il y en a qui réservent, par exemple, tous les 30 jours pour aller jusqu'à Santiago.
Ouais.
Si le troisième jour, ils arrêtent, ils sont obligés de téléphoner à tout le monde, s'ils sont corrects, pour dire qu'ils sont décalés.
Ouais.
Donc le mieux, c'est un peu d'improviser. Il y a des guides, des ouvrages sur les chemins, avec les adresses, les coups, le plan de l'itinéraire. Il y a sur Internet aussi, on trouve tout un tas de renseignements. Il y a des moyens de faire ça sans trop se poser de questions. Et puis en route, on rencontre du monde, quoi. Et puis le soir, il y a les repas ensemble. Ouais. C'est original, il y a les Coréens, il y a les Japonais.
Il y a des lendemains où c'est un peu plus dur de repartir, parce qu'il y a des soirées, il y a des imprévus.
Il y a des lendemains qui sont des fois durs, oui.
Ouais.
En plus... Souvent, on part de bonne heure. Hein.
Ouais.
Dans les refuges, à partir de 6-7 heures, ça dégage.
Ouais.
Donc celui qui a fait la Java jusqu'à 9 heures,
oui.
Ou jusqu'à 10-11 heures, le lendemain matin, il a du mal.
Ouais.
Alors il peut s'arrêter après. Hein.
Oui.
Il part, il quitte le refuge, il se trouve un char avec de l'herbe, et puis ouais. il fait sa sieste.
Bah, il faut bien expier ses péchés.
Voilà. Et il y en a qui le font en vélo, il y en a qui le font à cheval.
À cheval.
Ouais. On commence à en voir avec des trottinettes ou des vélos électriques.
Ah ouais.
Chacun fait son chemin
en trottinette,
comme il veut, oui.
Enfin, ça n'a pas beaucoup d'autonomie, une trottinette.
Il recharge dans les refuges.
Ouais.
Dans les refuges ou dans un bar. Ou...
D'accord.
Il y a plein d'endroits. Les gens sont sympas avec les pèlerins. Il y a des gens, des fois, qui se font coincer parce qu'ils n'ont pas trouvé de quoi dormir. Ils frappent à une maison en disant « Vous ne savez pas où je pourrais dormir ?» Les gens disent « Je vais dormir chez moi. »
J'irai dormir chez vous. André Dubernet, ancien président, mais toujours membre actif de la société landaise des Amis de Saint-Jacques et études compostellanes. À Mont-de-Marsan, retrouvez la société landaise des Amis de Saint-Jacques de Compostelle. De rue Lesbazeille, le chemin sur le net. Pour plus d'informations, www.compostelle-lande.org.